talmudique. Juif, un mot énigmatique qui, quelle que soit la définition qu'on en donne, n'épuise pas d'autres possibilités de sens. Mais sans doute est-il nécessaire de souligner, du moins de rappeler, que ce mot a une longue histoire, celui d'un peuple qui, depuis 2500 ans, traverse le temps et la géographie des cinq continents en fonction de l'accueil et du rejet des nations à son égard. 2500 ans d'une histoire riche, d'une culture, elle-même différente selon les lieux et les époques, riche de différentes langues, de littérature, de philosophie, de métaphysique, d'éthique et d'esthétique, de droit et de réflexion politique, et de tant d'autres choses qui donnent à la vie ses couleurs et sa musique. Histoire du peuple juif qui ne se réduit pas à la Shoah, même si, de par sa proximité dans le temps, cette catastrophe est encore d'une si grande prégnance. Histoire des juifs qui ne se réduit pas non plus au judaïsme comme religion, car on peut, entre autres, être juif et athée, juif et non pratiquant, juif du livre, juif de l'étude, juif de la synagogue, juif indifférent de lettres, juif honoris causa, juif par solidarité, ou encore juif qui n'a jamais su qu'il l'était. Il faut des œuvres pour nous le rappeler et vivifier cette pluralité de l'être juif. Des œuvres riches et subtiles qui, par l'expérience originale qu'elles décrivent, donnent à entendre ce questionnement permanent de l'identité juive. L'œuvre de George Arthur Goldschmidt en fait partie, et chacun de ses nouveaux livres est pour moi un événement. George Arthur Goldschmidt, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Né en Allemagne en 1928, George Arthur Goldschmidt, vous êtes écrivain et traducteur, auteur d'un nombre très important de récits et d'essais, et je pense que votre réflexion apporte dans le champ de cette question sur l'identité juive quelque chose de tout à fait original qui nous fait sortir de notre sommeil dogmatique et nous invite sur de nouveaux chemins de pensée. Original, car vous y apportez un élément nouveau, très rarement pensé, quand on est habitué à la logique aristotélicienne qui construit le monde et tente de le comprendre à partir des catégories de l'être et du non-être. Où les choses sont, où elles ne sont pas. Être ou non-être. Pas de catégorie intermédiaire. Mais vous, George Arthur Goldschmidt, par votre histoire personnelle, vous découvrez que l'on peut à la fois être et ne pas être. Être ce que l'on n'est pas et ne pas être ce que l'on est, et les deux à la fois. George Arthur Goldschmidt.
Vous dites ça très bien. C'est tout à fait mon problème fondamental, parce que ma situation de naissance est paradoxale. Je suis issu d'une des plus anciennes familles juives d'Allemagne du Nord, environ de Hambourg. Ils existent à Hambourg depuis 1650, c'est établi. Et mon arrière-grand-père, la seule chose dont je suis fier, c'est un arrière-grand-père qui est né au XVIIIe siècle. Et cet arrière-grand-père s'est converti au protestantisme pour des raisons de convenance, parce que ça faisait mieux, parce que ça l'intégrait plus vite. Et, par exemple, ils ont abandonné la circoncision dès 1850. Et si bien que moi, je suis né chrétien, dans une famille protestante très pratiquante, et je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Et toute ma vie s'est passée, heureusement pour moi, de ne pas comprendre ce que je suis. Je suis protestant, bon, par reconnaissance pour le curé qui m'a caché, je me suis même converti au catholicisme. Je suis totalement athée, incapable de cette pensée religieuse. Et en même temps, j'ai échappé, grâce à des paysans français qui m'ont caché, à la déportation. J'ai une femme admirable, des enfants merveilleux, et je suis le plus heureux des hommes, alors que je devrais pas l'être. Hein? C'est complètement... Mais j'ai une espèce de destin extraordinaire, puisque rien ne m'est arrivé. J'ai vu les Allemands qui sont venus m'arrêter, et curieusement, l'officier qui précédait les deux soldats sur un chemin très étroit s'est écarté pour me laisser passer, ce que j'ai jamais compris. Donc, ils ne m'ont pas trouvé. J'avais un grand frère qui, lui, s'est engagé dans la résistance et est devenu officier de l'armée française. Et moi, je n'ai ni vu ni étoile jaune. J'ai vu deux soldats allemands, ceux qui sont venus m'arrêter, et les avions anglais qui allaient bombarder Turin. C'est la seule chose qui m'est arrivée, alors que l'Europe était à feu et à sang et que Auschwitz fonctionnait à plein. C'est-à-dire, c'est terrible. C'est magnifique et terrible.
Mais très vite, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose, que ce mot juif, comme vous le dites, ce petit mot, était là, rampant dans votre famille. Il y a aussi les gens autour de vous, cette personne qui distribue à la sortie de l'école ou de sa boutique, qui distribue des cartes de l'Allemagne, et puis vous voulez en recevoir une, et puis vous dit « Non, vous ne pouvez pas en recevoir parce que vous n'êtes pas allemand. »
Voilà, exactement. Et je ne comprenais pas pourquoi mes parents, sans soigneusement, il n'y avait aucun rappel de nos origines juives. Pas de chandelier à cette branche, aucun livre en hébreu, alors que mon père faisait du grec et du latin toute la journée. C'était un haut magistrat que Hitler a mis à la retraite, avant de le déporter à Theresienstadt. Et je ne savais, c'est seulement à 15 ans, dans cet internat extraordinaire où j'étais à la fois domestique et élève, et où je devais faire les commissions, ça, pour ne pas rien vous cacher, c'était à Megève, au-dessus de Megève. Et la directrice, je voulais aller faire les commissions comme d'habitude, elle me dit « Mon enfant, vous ne savez donc pas que vous êtes juif ?» C'est à 15 ans que, pour la première fois, j'ai pris conscience de cette identité que mon inconscient refusait certainement. Mes parents, je sentais bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Et c'était lié à ce peuple de l'Ancien Testament, on me lisait beaucoup la Bible, et je refusais de comprendre. Maintenant, je me rends compte que je le savais parfaitement, mais que pour me protéger, je faisais semblant de ne pas comprendre. De même que je faisais semblant d'avoir oublié l'allemand. C'est très curieux que la judéité et la germanité soient associées à ce point. C'est quand même un paradoxe complètement fou. Et qu'en plus, je fasse de l'allemand ma profession, c'est complètement fou.
Alors, votre père, que vous venez d'évoquer, lui, est déporté à Theresienstadt. Et dans ce paradoxe que vous évoquez, il va servir de pasteur protestant pour les juifs.
Absolument.
Les juifs protestants.
Il y avait à peu près 5 ou 6 000. Ça aussi, la folie hitlérienne. Comment une race peut-elle être définie par une religion? Il fallait avoir 4 grands-parents convertis, baptisés à la naissance pour être considérés comme ariens. Alors, si vous n'aviez que 2, vous étiez demi-juif, quart de juif, etc. Et mon père était folle youde, c'est-à-dire, puisque ses parents s'étaient convertis, donc lui était probablement peut-être baptisé à la naissance, mais pas ses parents, je crois du moins. Et il devient le pasteur, grâce d'ailleurs, il sera protégé par le fameux Murmelstein, dont Lanzmann parle beaucoup dans son film sur Theresienstadt, et qui était un des grands rabbins de Vienne, et qui, paradoxe fantastique, s'arrange au prix de grands efforts pour que mon père ait un arbre de Noël pour le culte protestant. C'est extraordinaire. Et ils se s'entendaient très bien. Murmelstein était très ami de... Et mon père était très ami de Murmelstein. C'est peut-être Murmelstein qui ne l'a pas inscrit sur les terribles listes que les anciens... Vous savez, c'est comme dans les tribus, il y avait un ancien. Ces pauvres malheureux devaient faire les listes des gens qu'on allait envoyer à Auschwitz. Et mon père ne s'est jamais trouvé sur cette liste. Pourquoi? Peut-être grâce à la protection de Murmelstein, ce qui est difficile à supporter d'ailleurs. Et il a fait d'admirables dessins que j'ai donné au musée de la déportation de Lyon et qui ont paru dans un livre qui s'appelle « Deux fois dans le masque de la barbarie » et surtout « Puisque le ciel est sans échelle » aux éditions Créafis. Et il a réussi à sauver ses dessins. Ses dessins sont une violente protestation de la simplicité et de l'évidence. Ce que je vois n'existe pas. Et il peignait des visages magnifiques, des paysages, comme si... Il n'était pas vrai que l'horreur existe. C'était aussi une forme de résistance. J'ai compris ça lors d'un exposé qu'on m'avait demandé de faire au musée d'histoire juive à Paris. Et un auditeur m'a dit « Mais monsieur, c'est un grand acte de résistance. J'avais jamais vu ça comme ça. » Et il a tout à fait raison.
C'est-à-dire dans
mon
la vie
père non... était un haut fonctionnaire prussien qui ne s'est jamais relevé de ce qu'il avait un jour serré la main de Guillaume II, qui... disait, les autres font ça très bien, mais nous, les Allemands, on fait ça mieux. J'étais élevé dans cette atmosphère. Et mon père était un nationaliste allemand, vous vous rendez compte. Il était un haut magistrat, il était juge au tribunal constitutionnel de Leipzig. Et c'est un paradoxe, là aussi, absolu. Je ne pouvais pas tomber dans une famille plus allemande.
Voilà, et vous-même, vous avez, sur les épaules d'un SS, vous avez salué Hitler dans votre jeunesse.
j'étais chez ma, j'avais une gouvernante, et nous étions au premier rang, et je dis quelque chose, et un SS se tourne, me prend, et je vois pour la, avec étonnement qu'à l'intérieur de la casquette, il y avait une bosse, ce que d'en bas, je ne pouvais pas voir. Et en effet, arrive la voiture d'Hitler, qui se tient au pare-brise, et qui, en me voyant, le joli petit Aryen blond sur les épaules de la SS, fait un vaccine de la main, comme ça. C'est fantastique. Il existe d'ailleurs, je crois, un documentaire à Hambourg où on le voit. Hein. Alors, Hitler qui fait ça. Hein. S'il avait su. Et ensuite, mes parents m'envoient à Florence, et ils voulaient qu'on visite ce qui était encore dans l'ordre des choses en 1938, au musée allemand, où on présentait la télévision pour la première fois. Et là aussi, je suis dans un écran, je ne veux pas croire, et je dis, c'est pas vrai, et la dame me dit, tu es un joli petit Allemand blond aux yeux bleus. Et là, j'ai su que quelque chose, je me suis dit, si elle avait su, donc je savais déjà ça, oui. Je ne voulais pas savoir.
Vous ne voulez pas savoir, et vous avez cette phrase tout à fait étonnante, vous dites, c'est Hitler qui m'a fait juif.
Mais absolument. Absolument, absolument, je ne suis pas le seul, vous savez.
Oui.
Beaucoup d'écrivains d'origine juive allemande ont été. Il y a un grand économiste dont je ne me souviens pas, qui disait que c'est Hitler qui m'a fait juif, mais moi, absolument. Alors, mais je ne suis ni fier ni triste, je suis en pleine conscience, c'est une identité au fond fantastique du mauvais esprit, de la surveillance, de la vigilance. J'ai toujours eu mauvais esprit. On m'a beaucoup battu dans cet internat pour ça, parce que j'avais toujours quelque chose à redire, et je ne croyais pas que c'était presque une attitude héréditaire. Mon arrière-grand-mère était suffragette. Elle était très connue en Hambourg, elle s'appelait Johanna Goldschmidt, elle a écrit pas mal de bouquins, et elle était une des premières femmes à demander le droit de vote. Elle s'est même retrouvée en prison pour 3 jours, c'est la grande bourgeoisie, alors on ne pouvait pas lui faire de mal. Et ça, autre paradoxe, et c'est... L'existence juive est au fond, c'était un paradoxe. Même quand on refuse, comme moi, de me renseigner sur mes origines, elles me prennent totalement, puisqu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Une espèce de vigilance native. Je ne me suis jamais... Je suis totalement intégré à cet extraordinaire pays qu'est la France, parce que le mérite de la France, c'est qu'on ne vous demande rien. On vous fout la paix. Et la laïcité, c'est ça. Et s'il est fini de la laïcité, c'est fini de la France. C'est-à-dire ce pays où tout le monde se fout de ce que vous êtes et où tout le monde vous admet comme citoyen. Et c'est la seule chose à laquelle je suis totalement intégré. Mais toute théorie, quelle qu'elle soit, je la révoque immédiatement en doute. Instinctivement, sans même le savoir.
Et pourtant, vous êtes sensible, on peut comprendre, par rapport à ce que vous venez de dire, aux thèses de Sartre sur la question juive, parue en 47.
Ah oui.
On peut comprendre que ces thèses vous aient particulièrement parlé, car la désignation est devenue très vite le centre de votre expérience. Sartre écrit « Nous ne sommes pas ce que nous sommes, mais seulement ce qui est conforme à la manière dont les autres vous désignent, c'est l'antisémite qui crée le juif ». Et donc, et malgré tout, l'identité, et vous dites, l'identité n'est jamais choisie, elle n'est jamais qu'imposée, elle n'est jamais choisie, elle est toujours une désignation du fait d'autrui. Et je dirais, et pourtant, il existe une forme de liberté dans l'existence. Est-ce le sens que vous donnez au mot destin, qui est le titre de vos derniers livres parus aux éditions de l'Éclat, Georges Arthur Goldschmidt?
Oui, en même temps, le destin, c'est ce qui m'a été imposé. Contre ma liberté. Mais les deux se tiennent, évidemment. Ce qui est essentiel, c'est tout être humain est absolument identique à l'autre dans ce fond muet où je sais que je suis. C'est la seule chose qui compte. La sainteté, moi, j'ai fait toujours cette expérience dans le métro. Je suis à côté de quelqu'un, nos bras se touchent, et je pourrais vivre 100 000 ans que je ne serais jamais rien de lui. Même s'il me racontait toute sa vie, je ne saurais rien. Et ça, c'est ce que j'appelle la sainteté de l'être humain. J'ai découvert, le mot sacré est un mot dangereux, un mot d'obéissance, de soumission. Mais la sainteté, je crois fondamentalement à la sainteté de tout être humain. Et ça, c'est peut-être la manière dont je me raconte au judaïsme. Ça.
La manière dont vous vous raccrochez au judaïsme.
Oui, sans le savoir.
Oui. Hein. Et cette distinction d'ailleurs qu'on retrouve chez Lévinas entre sacré, qui est de l'ordre du paganisme, et la sainteté de l'ordre de l'infini, justement.
Avant de lire Lévinas, je l'avais déjà vu par moi-même, ce qui prouve aussi probablement qu'il y a une transmission inconsciente d'un certain nombre de choses. J'ai toujours été persuadé de ça. J'ai d'ailleurs écrit un petit bouquin, je l'ai dit chez Bayard, jamais pourquoi il m'avait demandé à moi de l'écrire, qui s'appelle « En présence du Dieu absent ». Toute idée de théologie mais totalement étrangère est parfaite, et en même temps, ça me passionne. Mais en tant qu'athée fondamental, qui croit à l'être humain, ça c'est pour moi la donnée fondamentale. Oui, avant de lire Lévinas, je savais déjà, j'avais horreur du mot, en tant que jeune élève, du mot « sacré » qui me faisait peur, espèce de... En effet, comme il dit, de paganisme, de soumission, alors que le mot sainteté est un mot admirable puisque chacun en fait ce qu'il veut.
Hein. Et vous disiez, j'ai écrit un petit livre sur le Dieu absent, et que vous aimiez à la fois la métaphysique et que vous êtes loin de la théologie. Vous vouliez dire quelque chose par rapport à ça.
Ça s'appelle En présence du Dieu absent, et curieusement, c'est les éditions Bayard. J'ai jamais compris pourquoi il s'était adressé à moi. J'ai fait ça avec passion. Et la métaphysique me passionne, la théologie aussi, mais dans la mesure où elle est simplement de la pensée. Mais je suis totalement... Quelqu'un m'a dit que j'étais trop religieux pour être religieux. Et je me sens totalement incapable de croire, mais j'ai la foi. J'ai la foi en l'homme, je me passionne peut-être pour les choses, mais je suis incapable d'obéir à un ordre futile théologique. Je ne peux pas penser ce qu'on me dit de penser. C'est absolument impossible. Ça, j'ai trop côtoyé Descartes, auquel je comprenais rien, j'avais 15-16 ans, et j'ai simplement trouvé dans les méditations, en feuilletant ce que je ne comprenais pas, en italique, j'existe. Alors je me dis, merde, ça c'est... Alors je me suis passionné pour Descartes, car on peut avoir de plus mauvaises lectures que Descartes. Parce que c'est le grand initiateur à la liberté judéo-européenne, c'est-à-dire... Je ne céderai pas devant tes impératifs. Spinoza, la Boétie, tout ça, c'est très proche dans le temps, et c'est ça qui m'a formé. Parce que j'étais dans un internat catholique où, curieusement, on ne vous interdisait pas certaines lectures. C'est tout à fait curieux.
Treibe den Karl ans Land. Komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand. Komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand, wir kosen Hand. Leg an mein Herz dein Köpfchen und fürchte dich nicht zu sehr. Vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer? Vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer? Täglich dem wilden Meer.
Nous sommes en train d'écouter un livre de Schubert, Georges Arthur Goldschmidt, La fille du pêcheur, Das Fischermädchen. Dietrich Fischer-Disco est accompagné ici par Klaus Billing. Les paroles sont de Heine, un poète que vous avez choisi de nous faire entendre. Pour quelle raison?
C'est un très très lointain arrière-grand-cousin, donc il en était question. De plus, je savais que c'était un écrivain, mais mon père avait soigneusement caché les volumes plus petits que les volumes classiques, pour qu'on puisse les mettre derrière Goethe, etc. Et moi, je fouillais dans les bouquins parce que je trouvais ça joli. Et il y avait ces petits livres avec ce Heine, parce que ma famille en avait honte. Il avait mauvais esprit, mais ma famille était surintégrée à l'Empire wilhelminien. Et surtout, à l'école, on me faisait apprendre la Lorelei, et même... Je trouvais ça magnifique. Et en dessous, il y avait écrit Dichter unbekannt, poète inconnu. Alors je vais voir, c'est en 1937, 37 je suppose, je vais voir mes malheureux parents en sortant de l'école. Est-ce qu'il s'appelle Monsieur Inconnu ou est-ce qu'il est vraiment inconnu? Rendez-vous compte, mes parents, affolés. Il fallait surtout que je cache mes origines. Déjà, ça avait compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et je suis retourné en Allemagne assez souvent à partir de 1949. Et jusqu'à maintenant, personne ne voulait admettre que dans les manuels scolaires de l'enseignement primaire, il y avait poète inconnu. C'est-à-dire, il ne fallait pas que la plus grande des poésies allemandes puisse être écrite par un Youpin. C'était intolérable pour l'Allemagne. Et c'est-à-dire qu'elle était obligée de se sacrifier elle-même. Car les Juifs allemands ont été les creuseurs de propres tombes, puisque sans les Juifs allemands, l'Allemagne ne pouvait pas exister. Ils se sont intégrés avec un enthousiasme extraordinaire. C'est eux qui ont construit l'Empire avec une espèce de passion extraordinaire. Le nombre de gens juifs, de confession, d'origine juive, qui ont participé à la construction de l'Empire wilhelminien est inimaginable. Ils ont creusé avec enthousiasme leur propre tombe, puisque Auschwitz est issu de ça, finalement. C'est autre paradoxe, enfin, paradoxe fou.
Qu'est-ce que l'antisémite a reproché justement à ces juifs qui se sont convertis et qui ont voulu construire l'Allemagne avec passion?
D'être trop allemands. Parce qu'ils avaient tout compris. Ils avaient compris à la fois la profondeur, espèce de côté vertical de la pensée allemande et le côté humoristique auquel ils ont ajouté l'humour juif. Heine passait son temps à faire des blagues antisémites. Hein. Et espèce de, là aussi, le paradoxe, c'est-à-dire la liberté de penser, et l'Allemagne était figurée par ces gens. C'était insupportable qu'on puisse être à ce point allemand tout en se sentant libre. Il vient de paraître en France, je suis en train de faire un article pour la revue qui succède à la quinzaine littéraire, qui s'appelle En attendant Nadeau, sur certain Klaus Teveleit. Le livre s'appelle Fantasmagorie, où il décrit parfaitement les grandes obsessions allemandes liées à une sexualité refoulée. L'une des raisons de l'antisémitisme, c'est que les Juifs étaient les témoins des perversions sexuelles homosexuelles allemandes, et le témoin était, il fallait l'éliminer. Il y a un problème en Allemagne de la sexualité refoulée. La femme est maudite. Et das Weib, elle est au neutre, même chez Freud. Donc, c'est un des éléments constitutifs de l'Allemagne. Plus maintenant, la République contemporaine n'a plus rien à voir avec ça, encore qu'on ne sait pas. Et les Juifs représentaient l'élément d'ironie par rapport à ces obsessions, car il y a toujours eu une relative liberté juive à l'égard de la sexualité qu'il n'y avait absolument pas en Allemagne. Ça commence par Luther, le grand refoulement. Et ça, c'est aussi une des raisons. Et mes parents étaient assis sur deux chaises à la fois. Je jouais comme tous les enfants de 7-8 ans, touche pipi. Et ma mère, affolée, complètement hors d'elle, m'attache les mains. C'est-à-dire que j'avais envie de la tuer. Oui, ça, c'est aussi. Vous vous rendez compte, en France, ça faisait rigoler les gens. En Allemagne, l'onanisme était le crime absolu. Et tout ce Teveleit montre très bien à quel point le fascisme, le national-socialisme, repose très très largement, beaucoup plus sur la sexualité que sur les problèmes économiques. Mais ça, c'est en France, heureusement, on ne comprend pas ça. La grande liberté des Français les empêche de comprendre ce qui leur est tombé sur le dos en 40. Ça.
Alors, dans votre livre, enfin là, ce que vous dites est absolument passionnant. Et dans ce livre, Un destin que j'ai évoqué, vous faites une distinction importante entre judaïsme et judéité. Et judéité que vous définissez avec force tranquille comme défi à la mort, obstination à exister. Et vous dites, malgré la Shoah, malgré la tentative absolue d'éradication, les Juifs n'en persévèrent pas moins à être encore là. Quel est pour vous le secret de cette persévérance, de cette obstination dont témoignent par exemple aussi de célèbres textes de Pascal, d'ailleurs Pascal qui fut pour vous une véritable révélation, Georges Arthur Goldschmidt?
Ce qui est curieux, c'est que très tôt, j'ai su que je ne devais pas être là. Rien que de savoir que vous ne devez pas être là vous encourage à continuer à y être. S'il n'y avait pas cette permanente menace de la mort, les Juifs seraient comme tout le monde. Mais c'est parce qu'on les menace, qu'on leur dit « tu vas mourir » qu'ils veulent vivre. Ça me semble tout à fait, même pas élémentaire. C'est pour moi l'une des raisons fondamentales. Je n'ai jamais vécu avec tant de passion que quand je me suis réfugié dans la montagne, le jour où les Allemands sont venus me chercher, et qu'ensuite on m'a fait coucher chez d'autres paysans, avec les vaches, ce qui est merveilleux d'ailleurs, sortir le souffle des vaches sur sa figure, c'est un enthousiasme au sommet du danger, j'étais en même temps au sommet de la vie. Mais j'aurais jamais ressenti ça si on m'avait foutu la paix. Hein. C'est précisément parce qu'on a voulu ma peau que j'y tiens. Ça me semble tout à fait.
Vous voulez dire que c'est parce que le juif, quel qu'il soit, même lorsqu'il est en paix, il a ce sentiment d'inquiétude, d'incertitude qui lui vient de son histoire, parce que c'est pas ontologique.
Bien sûr, bien sûr.
C'est-à-dire d'avoir été rejeté, repoussé, exclu, etc., fait que on a toujours quand on existe et quand on vit, c'est déjà un bonheur simple.
Absolument. C'est tous les 50 ans. Il n'y a jamais eu de période de plus de 50 ans sans ombre de persécution ou de persécution. Si c'est la tentative d'Israël, de l'État d'Israël, qu'on soit comme tout le monde, mais ça ne peut pas marcher. Hein, parce qu'il y a toujours un rappel quelque part. Nul pays en Europe n'a autant caché les Juifs que les Français. Pendant la guerre, sur 500 000 juifs ou assimilés, il n'y a que, entre guillemets, 75 000 qui ont été déportés. Tous les autres ont été planqués par des Français. Soit pour les faire boulonner, soit pour les faire payer, mais peu importe. Qui sauve une vie sauve le monde, comme dit le Talmud. Et les Français ont été extraordinaires, mais on ne le sait pas assez. Et notamment, les curés de campagne, les moines, les bonnes sœurs, mais ça, il fallait, la hiérarchie catholique n'a pas voulu qu'on en parle. Si bien que les malheureux qui auraient bien raconté leur histoire, on leur a fait comprendre qu'ils valaient mieux pas le faire. Et en fait, il y a une véritable résistance du bas clergé. Moi, j'étais planqué par un curé italien, mussolinien, partisan de l'occupation allemande de la France, et qui n'a pas hésité à appeler son vicaire « cachez-moi le petit ».
Ça, c'est témoignage important, je peux personnellement le dire, puisque je suis, comme je l'ai souvent raconté à ce micro, issu d'une famille cachée, puisque ma mère a été cachée par le chanoine Vancourt à Lille pendant la guerre. Et donc, je comprends ce que vous dites là. Et cette judaïté, ce sentiment de force et de résistance que vous décrivez si bien, c'est en même temps ce grain... Il y a la résistance des Français, puis il y a la résistance du judaïsme qui se rencontre, et vous définissez le juif, comme vous en avez parlé avant, comme ce grain de sable qui empêche de dormir sur ses lauriers, ce doute permanent qui est la source de l'esprit critique, toujours en éveil, judéité critique, dont vous découvrez très tôt la proximité avec la littérature, avec votre rapport au livre, à la lecture, au corps et à la sexualité. Comment se passe cette rencontre, Georges Arthur Goldschmidt?
Cette rencontre s'est passée d'une manière très curieuse. Dans cet internat, on nous donnait beaucoup de fessées, ce qui est très... En France, c'est ambigu. Ça fait marrer les gens. En Allemagne, c'est meurtrier. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. En Allemagne, c'est un assassinat d'enfants. En France, c'est un côté un peu pervers et rigolo. Et comme cette directrice en avait marre de me taper dessus parce qu'elle ne donnait rien, elle m'a obligé à faire des lignes. Mais comme j'ai essayé avec deux stylos à la fois, elle m'a imposé de copier des textes, notamment La Bruyère, où je ne comprenais pas et ça m'émerveillait. Et j'ai découvert le mauvais esprit, justement, en lisant La Bruyère, La Rochefoucauld. Dans cet internat, on n'avait pas le droit de lire quoi que ce soit après 1848. La mort de Chateaubriand pour eux. Donc, j'ai une extraordinaire formation avec Bossuet, Bourdaloue, Fléchy, qui vous voulez. J'étais rempli de ça. Et ces gens avaient, malgré les apparences, un esprit extraordinaire, de contradiction permanente. C'est dans la littérature française que, paradoxalement, j'ai découvert... c'est une méchanceté, mais merveilleuse. Alors, heureusement pour l'humanité.
Mauvais esprit qui permet la persévérance dans l'être que nous avons évoqué, lié à ce sentiment d'inquiétude que vous avez aussi souligné. Et je pense que c'est dans Kafka que vous retrouvez aussi cette persévérance dans son œuvre, dans sa manière d'écrire, à la fois absolue et toujours inachevée, peut-être dans un premier chapitre, toujours manquant, j'ai l'impression.
Absolument. J'ai découvert Kafka dans l'extrême nord de l'Allemagne, dans un village où on a voté en 1937 à 60% pour Hitler. Et ma sœur a survécu parce que son mari, qui était le dernier assistant du philosophe Husserl, n'a pas divorcé. Donc on ne pouvait pas déporter. les Juifs mariés à un Arien. Et je suis retourné là en 1949-50 et il m'a donné le procès. La première phrase du procès, j'ai reçu un coup sur la tête dont je n'ai jamais relevé. Quelqu'un avait dû calomnier Joseph K, puisqu'il fut arrêté. Ah bon, ça m'est tombé sur la tête. Et c'est comme ça que j'ai découvert Kafka. Kafka, c'est exactement ça. C'est à la fois l'histoire juive dans son essence et en même temps l'humanité entière, l'accusation à laquelle vous ne pouvez pas vous dérober alors que vous n'avez rien fait. Sa faute, c'est de ne pas savoir qu'il est innocent. Hein. Et Kafka m'a accompagné toute ma vie. Maintenant, à 89 ans, je commence un peu à m'écarter de lui, mais il a fallu plus de 60 ans de compagnie.
Alors, Georges-Arthur Goloschmidt, nous venons d'aborder la question du livre, de la littérature, de la lecture et de l'interprétation, enfin pas encore. Vraiment, c'est le phénomène du langage qui est le centre de votre expérience. Langage qui se décline en mots, en paroles, qui s'organise selon des rythmes, des syntaxes différentes, en différentes langues, au cœur desquelles vibrent toutes les complexités de l'acte de traduire. Et c'est pour évoquer ces questions que l'on rencontre au cœur de votre œuvre que je vous invite, Georges-Arthur Goloschmidt, à nous retrouver la semaine prochaine, parce que l'émission est déjà terminée, pour poursuivre cette passionnante conversation pour laquelle je vous remercie. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont nous avons parlé aujourd'hui, Un destin paru aux éditions de l'Éclat. Merci encore. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la prise de son, comme toujours, Philippe Palares, à la réalisation, comme toujours aussi, Dany Journeau. Coltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.